France Inter.
Aujourd'hui, été 2025, l'Europe en surchauffe, racontée par...
Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je vis dans le noir, je ne dors plus, les mots sont les mêmes d'un bout à l'autre du pays, dans les appartements, sous les toits de Paris, dans les immeubles anciens de Marseille, dans les maisons mal isolées. Des habitants et habitantes racontent leur quotidien en pleine canicule. Ces témoignages, on pouvait les entendre chez nos confrères de France Info le 21 août dernier. Julien, locataire d'un studio parisien classé E, a vu le thermomètre grimper jusqu'à 38 degrés cet été chez lui. La nuit, il ouvre grand les fenêtres, fait tourner son ventilateur, mais il reste prisonnier d'une chaleur suffocante qui lui vole son sommeil. Alors il fuit dans les cinémas climatisés, les terrasses ombragées, chez des amis ou chez ses parents. À Marseille, Gaëtan, intermittent du spectacle, s'est résolu à dormir sur son canapé. Sa mezzanine, véritable fournaise, est inhabitable. Il ne ferme plus l'œil qu'avec son ventilateur braqué à 30 cm de son visage. Avec son salaire, il ne trouverait pas mieux, dit-il résigné. Partout les mêmes trésors d'ingéniosité pour grappiller quelques degrés, rideaux mouillé, couverture de survie, plaqué contre les vitres. Promenade nocturne pour tromper l'insomnie, réveil à l'aube pour profiter d'un peu de fraîcheur. Certains s'équipent de climatiseurs, mais le coût, l'impact écologique et la consommation d'énergie limitent leur usage. Derrière ces récits, une même réalité, celle des bouilloires thermiques, logements inadaptés aux chaleurs extrêmes qui transforment la vie quotidienne en épreuve. La Fondation Abbé Pierre appelle à un plan national pour rénover ses passoires énergétiques, équiper les logements de volets, végétaliser les ville, repeindre les toits en blanc, mais le chantier est titanesque. 90% des Parisiens, par exemple, vivent dans un îlot de chaleur à forte intensité. Et pourtant, le pire est encore à venir. Les scientifiques préviennent, sur la trajectoire actuelle d'un réchauffement de plus de 4 degrés, la France connaîtra 10 fois plus de vagues de chaleur d'ici la fin du siècle. Elles dureront de la mi-mai à la fin septembre, affecteront l'école, le travail et la vie quotidienne. Hier, dans un entretien accordé au Monde, la climatologue Valérie Masson-Delmotte rappeler que rétrospectivement, à la fin de ce siècle, l'été 2025 nous semblera frais. Une perspective vertigineuse tant il est difficile de l'imaginer aujourd'hui. Elle ajoute « Actuellement, après chaque vague de chaleur, il y a une réaction collective qui est de passer à autre chose, ce qui construit une forme d'indifférence très préoccupante. Le danger vient aussi d'un déni collectif. » L'occasion de revenir ensemble sur cet été 2025 et comprendre les événements climatiques qui ont marqué notre continent. Bonjour Françoise Vimeux.
Bonjour.
En tant que climatologue, si je vous demande en un mot ce qui caractérise pour vous cet été 2025, quel serait-il ?
Normal pour 2050.
Pour reprendre les propos de votre collègue Valérie Masson-Delmotte, est-ce que nous sommes effectivement dans un déni collectif qui nous met en danger concernant le climat ?
Alors je crois qu'on ne se rend pas bien compte en fait que l'été 2025 n'est pas un été exceptionnel. J'ai vu un des titres de journaux qui disent voilà c'est un été exceptionnel, mais non, c'est un été dans la gamme des possibles aujourd'hui en 2025 avec le niveau de réchauffement que l'on a atteint. Et par exemple la probabilité des vagues de chaleur qu'on a eues, en particulier celle d'août, c'est 1 sur 7, 1 sur 8. Hein. Donc vous prenez un dé à 8 phases, vous écrivez été 2025, août 2025, plutôt, et puis vous le lancez. Donc vous voyez, c'est possible. Pour vous donner une analogie, en 2003, avoir un été comme on a eu, c'était 1 sur 600. Donc là, c'était un ovni. Revivre aujourd'hui 2003, ça serait une probabilité de 1 sur 50, ça c'est exceptionnel.
Ouais.
1 sur 7, 1 sur 8, c'est possible. Et ce sera un été normal d'ici 25 ans.
Puisque vous parlez de 2003, c'était aussi 15 000 personnes décédées en lien direct avec la chaleur de cet été-là. Est-ce qu'on a le chiffre du nombre de morts là, de l'été 2025 ou c'est trop tôt pour le dire ?
Alors, pas pour tout l'été 2025, mais Santé publique France a déjà estimé les décès attribuables à la première vague de chaleur là, qu'on a eue fin juin, début juillet. C'est 480 décès. La grande majorité, ce sont des personnes de plus de 75 ans. Mm-hmm. Donc, 480 décès, c'est plus qu'un crash d'avion, par exemple.
Hein. Et ça n'a pas fait la une de l'actualité pour autant ?
Ah bah non, ce chiffre de 480, je ne l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu dans quelques médias, mais non, pas tant que ça.
Et c'est un chiffre qu'il faut chercher, hein, qui est pas si facile.
Oui, exactement.
Donc pour la seconde vague de chaleur, on n'a pas les chiffres encore.
Alors à ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'estimation du nombre de décès attribuables à la vague de chaleur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des décès arrivent après les vagues de chaleur. Il y a les décès pendant, c'est généralement les organismes qui sont déjà très fragilisés. Mais après, on a des effets qui durent pendant des semaines, voire des mois après l'été.
Donc généralement, il faut du temps pour avoir les chiffres pour ces raisons-là.
Généralement, Santé publique France fait ça en début d'année pour l'année qui vient de s'écouler.
Françoise Immeux, ce qu'on retient donc de cet été 2025, ce sont ces deux vagues de chaleur exceptionnelles.
Oui, alors deux vagues de chaleur qui sont vraiment remarquables, hein, je dirais pas exceptionnelles justement. Ouais. Alors remarquable la première d'abord parce qu'elle a été particulièrement précoce, hein, fin juin, début juillet. Donc là, on est encore en période scolaire. C'est la troisième la plus longue, elle a duré 16 jours, ex aequo avec 2003 et puis 2018 si je me rappelle bien. C'est la troisième la plus intense derrière 2019 et 2003. Et puis après, la deuxième vague de chaleur au mois d'août, elle a elle aussi été remarquable pour d'autres raisons. D'abord par son étendue géographique. On a eu presque quasiment tous les départements à un moment donné en alerte jaune, orange ou rouge, jusqu'à 14 départements en alerte rouge sur une journée, ce qui n'était jamais arrivé. Et elle a été exceptionnelle, là j'emploie vraiment le mot exceptionnel, dans le sud-ouest de la France. Alors je vais vous donner un chiffre. Météo France nous dit qu'on a atteint ou dépassé le seuil des 40 degrés dans le sud-ouest à 32 reprises. 32 reprises, c'est exactement le chiffre que l'on a sur la deuxième partie du XXe siècle, donc en 50 ans. Ouais. Donc là, en 11 jours de vague de chaleur au mois d'août, on a réussi à faire ce qu'on faisait en 50 ans au XXe siècle.
Donc ce dépassement de 40 degrés, il a été inédit dans un nombre de stations sur le territoire, comme jamais auparavant.
Par exemple, avant les années 80, on dépassait très rarement ce seuil de 40 degrés. Entre 1952 et 1980, Météo France nous dit qu'on a dû le dépasser 5 fois.
Ouais, c'est un seuil symbolique, 40 degrés.
Oui, c'est un seuil symbolique comme le seuil des 50 degrés dont on parle pour l'horizon 2050. Est-ce qu'on dépassera, par exemple, 50 degrés à Paris en 2050 ? C'est possible.
Ouais, mais c'est une chaleur intense qui touche aussi aux conditions même de vie, ces 40 degrés. C'est ça que ça raconte aussi, ce chiffre.
Oui, alors c'est clair, vous l'avez très bien dit en introduction, c'est en fait notre confort thermique qui n'est plus assuré, même si on est en bonne santé. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que 2003, c'était quand même il y a 22 ans. Et donc, l'adaptation aux vagues de chaleur en 22 ans, pour moi, elle n'est pas flagrante. Certes, il y a des grandes villes qui prennent les choses à bras-le-corps et qui végétalisent, qui essayent de réintroduire l'eau dans les villes, qui vont peindre des surfaces en blanc pour réfléchir la chaleur. Mais enfin, ce n'est pas du tout le cas dans toutes les villes. Et on a vu à quel point on a souffert là au mois d'août.
On y reviendra, bien sûr, sur les plans d'adaptation qui sont absolument nécessaires aujourd'hui, tout comme l'atténuation d'ailleurs. Aujourd'hui, rappelait Valérie Masson-Delmotte encore dans cet entretien du Monde hier, l'été n'est plus synonyme d'insouciance, mais d'une saison dangereuse pour les organismes vivants, les activités et le travail en extérieur. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui change aussi dans notre appréhension même de ces mois-là d'été.
Oui, bien sûr, et je dirais, il y a encore quelques années, on disait régulièrement « Ah, il fait chaud, c'est chouette, les gens sont en vacances, ils vont en profiter, ils vont manger des glaces, ils vont aller à la plage. » Mais en fait, aujourd'hui, les gens, ils vont plus à la plage quand il fait trop chaud, ils restent chez eux. Et donc, oui, cette insouciance, elle disparaît parce qu'on sait que c'est pas normal. On sait que derrière, il y a des choses graves, en fait. Et moi, j'entendais là, cet été, des gens dire « Bah oui, il fait chaud, c'est l'été, c'est normal. » Mais non, en fait, avoir à ce point chaud, ça n'est pas normal du tout. Et beaucoup de personnes font référence à l'été 1976. Et là, je tiens à dire que, en fait, c'est un exemple qui n'est pas un bon exemple. Si vous prenez la vague de chaleur de 1976, elle a duré presque deux semaines, mais par contre, elle était de plusieurs degrés plus froides que les vagues de chaleur récentes.
On va écouter une archive justement qui figurait dans une vidéo de l'Obs le 2 juillet dernier.
Les records de chaleur sont battus tous les jours.
La France a chaud, la France transpire et la soif, elle est lourde. Il fait chaud, on n'en peut plus, on étouffe. Tout a commencé par les autobus parisiens. Dès la semaine dernière, plusieurs dizaines de conducteurs ont débrayé pour réclamer une heure de pause.
C'est vrai que ça fait effet de serre. Avec les pare-brises, de plus, on est presque assis sur le moteur. Quand on se retrouve avec des 55, 60 degrés de chaleur à conduire l'autobus, et vous savez, c'est très pénible de rouler tout l'après-midi comme ça.
La canicule, toujours la canicule.
D'une façon générale, les syndicats voudraient que des mesures anti-chaleur soient prises officiellement.
En accord avec les ouvriers, la direction a décidé de décaler les horaires de travail.
Est-ce que c'est une amélioration ?
C'est une amélioration parce que vraiment, il fait très très chaud, c'est intenable. Hein.
Été 1976, et c'est vrai que, Françoise Humeux, quand on regarde les vidéos justement comme celle de l'Obs avec ses archives, les cartes de l'époque indiquaient 32 degrés à Paris. On en rêverait presque aujourd'hui.
Ah ben on en rêverait, et puis en 2050, on rêvera de l'été 2025. Et en 2100, c'est exactement ce que disait Valérie Masson-Delmotte, les projections climatiques nous disent que ça sera un été frais, voire plutôt froid.
L'autre fait marquant, c'est la température de la mer Méditerranée aussi.
Oui, alors ça fait plusieurs années que tous les étés, on enregistre des anomalies de température qui peuvent monter jusqu'à 5 à 6 degrés, en particulier dans la partie ouest du bassin méditerranéen et le long des côtes, souvent, le long des côtes espagnoles. Donc ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est ce qu'on appelle d'abord les vagues de chaleur marine. C'est un terme assez récent. C'est par analogie aux vagues de chaleur que l'on a dans l'atmosphère. Et ça impacte énormément la biodiversité. Ça fait disparaître certaines espèces. Et puis, il y a des espèces qui viennent de la mer Rouge, qui arrivent dans ces eaux finalement beaucoup plus chaudes aujourd'hui.
Ouais. Et puis, bien sûr, les incendies qui ont marqué tous les esprits, comme dans l'Aude. On va écouter là aussi ce reportage de France 5 dans C'est dans l'air. C'était au début du mois d'août, le 7 août, très exactement.
Au bout de cette route se dresse un mur de feu. Depuis hier après-midi, les flammes rongent les crêtes du massif des Corbières dans l'Aude. Un panache de fumée visible à des kilomètres, prenant de court habitants et touristes.
C'est parti là, ça fond. Ça avance à une vitesse. C'est parti derrière. Hein.
15 communes ont été cernées par les flammes. Les riverains ont dû être évacués en urgence.
Allez, regardez, vous avez ça crame au-dessus. Allez, on sort de là, s'il vous plaît. Allez, viens. Sortez de là, s'il vous plaît.
Voilà, les incendies très marquants de l'Aude et le risque incendie qui remonte lui aussi en latitude vers le nord de la France.
Exactement, alors jusqu'à il y a encore quelques années, le risque incendie, il était surtout cantonné au sud-est de la France. Là aujourd'hui, on voit de nouvelles régions apparaître sur la carte des risques. Et puis le risque, il augmente quasiment linéairement avec le réchauffement, il remonte vers le nord de la France. Et je vais vous donner un chiffre qui me paraît vraiment parlant. Si on atteint un réchauffement de plus 4 degrés en France par rapport à l'ère pré-industriel dans la deuxième partie du 21e siècle, le risque incendie, par exemple, en région parisienne, il sera équivalent au risque que l'on connaît aujourd'hui dans l'arrière-pays méditerranéen.
2050
quand on aura atteint
2100.
Plus 4 degrés,
en 2100,
donc
fin du siècle.
Voilà, les projections disent que c'est
siècle,
à la fin du siècle, deuxième moitié du 21e siècle.
Avec des incendies qui pourraient donc être aux portes de la capitale, finalement.
Oui, c'est-à-dire que le risque incendie sera le même, et ça pose pour moi aussi la question de est-ce qu'on est prêt au niveau des secours à pouvoir intervenir sur tout le territoire hexagonal à un même moment avec des feux simultanés un peu partout.
Oui. La sécheresse également, printemps pluvieux, et puis ensuite déficit de pluie avec des températures élevées et un automne également pluvieux.
Alors ce qu'on voit là vraiment pour moi en 2025, c'est l'exemple même de ce qu'on attend de plus en plus fréquemment dans le futur, c'est cette alternance de périodes très humides et de périodes sèches, un printemps très pluvieux et puis une période très sèche ensuite. Et ça par exemple, ça augmente le risque incendie. Pourquoi ? Parce que comme il pleut au printemps au moment où la végétation sort de sa dormance, elle se développe et donc on a une masse de végétation, une biomasse vraiment importante pour servir de combustible. En fait, s'il y a un incendie. Donc ça, c'est un risque majeur et on l'a très bien vu sur 2025. Et puis sur les sécheresses, ce que nous disent en fait nos collègues hydrologues, c'est que si on regarde les arrêtés de sécheresse aujourd'hui qui concernent les eaux souterraines, la superficie concernée de notre territoire n'a jamais été aussi grande. Et donc ça, c'est un vrai problème. Il y a des vraies questions derrière sur les causes. Est-ce que c'est parce qu'il fait de plus en plus chaud et donc tous les processus d'évaporation sont exacerbés ? Évaporation de l'eau du sol, évaporation de la végétation. végétation. Est-ce que ça vient du fait qu'on pompe de plus en plus dans les eaux souterraines, pour l'agriculture par exemple? Donc là, il y a des vraies questions sur cette perte d'eau dans nos nappes phréatiques.
Donc beaucoup de contrastes entre justement de la sécheresse et puis à l'inverse, des événements pluvieux, des pluies rapides, torrentielles, très importantes aussi.
Oui, en fait, on sait que... on a avec le réchauffement ce qu'on appelle une accélération du cycle de l'eau. Dans notre jargon, on parle de volatilité du cycle de l'eau à différentes échelles de temps, à l'intérieur d'une saison à l'autre, comme on l'a vu cette année, et ce sera même le cas d'une année à l'autre. Et vous avez par exemple aussi des risques inondations qui augmentent si à l'inverse vous avez une période très sèche qui est suivie d'une période très humide. Et si on regarde en France pendant l'été, on s'attend à avoir de longues périodes sèches, sans pluie, avec d'un seul coup des pluies torrentielles pendant quelques heures, quelques jours.
Parce que ce qu'il faut retenir, de façon d'ailleurs presque un peu contre-intuitive, c'est que plus le climat se réchauffe et plus l'humidité est importante dans l'atmosphère.
C'est ça, en fait, c'est vraiment de la physique de base. Plus on réchauffe l'atmosphère et plus elle peut contenir d'eau. Hein, c'est 7% en plus d'eau par degré.
Alors elle rend 7% par degré.
Par degré de réchauffement, et elle va rendre cette eau évidemment pendant je dirais les événements météorologiques intenses, et en particulier pendant les orages. Ce chiffre de 7% par degré, il monte jusqu'à à peu près 14-15%. Donc vraiment des pluies torrentielles, et ça on le voit partout dans le monde, quasiment sur tous les continents. Toutes les pluies extrêmes augmentant.
Françoise Humeux, on se retrouve dans un instant. On va voir justement comment s'adapter à ce monde-là qui change si vite. Et puis, amis auditrices et auditeurs, je vous invite à nous rejoindre avec vos messages, vos questions. Nous sommes de retour en direct. Vous nous rejoignez sur la page de La Terre au Carré, mais également avec vos notes vocales, si vous le souhaitez, sur l'application Radio France.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
L'enfer des flammes aux portes de la ville. À 20 km au nord de Madrid, on ne voit qu'un immense brasier. Toute la nuit, les pompiers ont tenté d'éteindre l'incendie. Dans tout le pays, une quinzaine d'incendies en trois jours. Au nord comme au sud, dans la province de Cadix, derrière les éoliennes, les flammes dévorent les forêts de pins.
L'Espagne, le Portugal, la France, on a même vu des feux en Écosse, dans des parties de notre continent où on ne voyait jamais ces événements auparavant. Françoise Vimeux, vous qui êtes climatologue, on fait le point avec vous sur cet été caniculaire 2025. Malgré évidemment ces événements extrêmement frappants, nos confrères du Monde posaient cette question dans l'édition d'aujourd'hui. Est-ce que cet été caniculaire peut relancer la transition écologique après des mois de recul politique? Ces désastres liés au changement climatique marquent effectivement les esprits. Mais tout ça dans un contexte général de recul sur la politique écologique du pays. C'est aussi votre constat ?
Alors, moi, je n'ai pas la réponse à la question, mais effectivement, la question, elle se pose. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus les impacts du changement climatique s'intensifier et se généraliser partout dans le monde, mais maintenant vraiment sur notre territoire, tous les étés ou même à d'autres saisons, avec par exemple les inondations à la fin de l'année dernière dans le nord de la France. Et donc on dirait que malgré ça, malgré les images qu'on a sous les yeux, eh bien finalement, je dirais, l'environnement au sens large n'est pas au centre de nos préoccupations, que ce soit des préoccupations politiques ou des fois des préoccupations de la société civile, même si dans les sondages, la préoccupation du changement climatique arrive en haut. Il me semble que c'est souvent balayé par d'autres préoccupations qui sont aussi des vraies préoccupations. Moi, je ne fais pas de hiérarchie dans les inquiétudes à avoir, mais je constate effectivement qu'on a ce recul. Je ne me l'explique pas et je n'ai pas la réponse à la question posée par le monde.
On évoquait l'adaptation tout à l'heure. On va s'adapter. Ça, c'est quasiment une promesse qu'on fait depuis 2003, sauf que vous nous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas flagrant.
Oui, et puis alors attention, y a un discours qui est faux, c'est de dire ça se réchauffe, y a de plus en plus d'impact, mais c'est pas très grave, on va s'adapter. Ouais. En fait, c'est faux parce que l'adaptation, elle a une limite dure. Au-delà d'un certain degré de réchauffement qui a été estimé à en dessous de 2 degrés au niveau mondial, ce qui fait un petit peu moins de 3 degrés pour le territoire hexagonal, eh bien au-delà de ce degré de réchauffement, l'adaptation, elle devient complexe, voire impossible dans certains territoires et aussi dans certains secteurs.
Donc il y a vraiment des limites, c'est ce qu'il faut avoir en tête.
Les spécialistes de l'adaptation nous disent qu'il y a une limite, des limites dures. à l'adaptation et qu'au-delà d'un certain degré de réchauffement, ça n'est plus possible. Je peux donner par exemple le cas des États insulaires. Bon, il y a un ensemble de solutions, un panel de solutions pour s'adapter au niveau des mers qui montent. Elles sont bien connues, elles ont été identifiées, analysées par le groupe du GIEC qui s'occupe de ça.
Par exemple,
alors, bien, vous pouvez reculer sur un point plus haut, vous pouvez aussi élever les maisons, les infrastructures, et puis surtout, vous pouvez compter sur les solutions basées sur la nature. Donc, par exemple, entretenir les mangroves, entretenir les herbiers, entretenir les dunes.
Donc, on a les solutions, finalement.
Alors, ça, ce sont des solutions qui sont bien acceptées, hein, les solutions fondées sur la nature, bien acceptées, rapides à mettre en œuvre. Elles sont souvent pas forcément hyper efficace sur le long terme. Et puis à l'autre bout du spectre, vous avez construire des digues à certains endroits, pas partout. Ça, c'est moins bien accepté, c'est plus long à mettre en œuvre. Par contre, c'est efficace. Bon. Mais à partir du moment où finalement la mer a tellement, enfin le niveau de la mer a tellement augmenté que votre île est recouverte.
Ouais. Même ces digues, elles ne servent plus à rien.
Les digues ne servent à rien. Et puis vous, avant d'être complètement recouverte, vous avez des inondations chroniques, par exemple, dans certains territoires, à marée haute ou même pendant les grandes marées. Donc là, vous quitter le territoire, il n'y a plus d'adaptation. Enfin, la seule adaptation, c'est de quitter le territoire.
Il y a un plan d'adaptation en France.
Oui,
hein, la France
on
a 4 degrés, donc ça a le mérite d'exister.
Oui.
Sauf que c'est du papier.
Alors, il y a eu énormément de rapports en France sur l'adaptation. Il y a eu un très gros rapport de la Cour des comptes l'année dernière pour dire qu'en France, on a un plan d'adaptation, il a le mérite d'exister, il explore les différents secteurs, les différents territoires, et la trajectoire qui a été choisie, c'est s'adapter à plus 4 degrés en France. En revanche...
Il manquait un petit truc dans ce rapport, quand même.
Alors, en revanche, ce qui manque dans ce rapport, c'est la méthode. C'est la trajectoire,
et le chiffrage,
c'est les jalons. Hein. Alors, c'est le chiffrage financier. Alors, je sais que dans le rapport de la Cour des comptes, il n'y avait même pas de chiffrage en fait, du coût de l'adaptation, tellement on ne sait pas quelles sont les voies qui vont être choisies et à quel point on va s'adapter. Ça se compte quand même, je crois, en plusieurs milliards d'euros par an, mais ça reste quand même inférieur au coût des dégâts qui pourraient être causés par les catastrophes climatiques, enfin catastrophes, j'aime pas trop, les événements météorologiques extrêmes.
Donc ce plan, il existe, il est scientifiquement documenté, mais on n'en tient pas compte, réellement.
Eh bien, on est très en retard, c'est pas qu'il ne se fait rien, ce serait faux de dire qu'il ne se fait rien, mais en fait, on va vraiment très très doucement regarder par exemple l'isolation thermique des bâtiments. Quand vous discutez au niveau départemental avec les responsables de collège, ils vous disent que ils comprennent bien qu'il faut mettre des stores partout. Mais en fait, ils ont un budget qui est limité. Et si ce budget est uniquement dédié à changer les stores dans les collèges, ils en ont quand même pour 10 ans. Voilà, donc il y a aussi un problème de coût derrière, d'investissement, et c'est terrible parce que toutes ces personnes avec qui moi j'ai pu discuter sont vraiment très persuadées qu'il faut s'adapter, en particulier quand on a des vagues de chaleur qui arrivent, enfin qui recouvrent le calendrier scolaire.
50 degrés, Françoise Vimeux, ça va devenir vraiment supportable ou pas ?
Ah alors déjà 40 degrés c'est un petit peu compliqué, donc 50 degrés je vous laisse imaginer, moi j'ai du mal à imaginer ce que ça veut dire, mais si on n'a pas eu une adaptation je dirais à la fois structurelle et institutionnelle, ça va être très dur. Là, l'adaptation que l'on a aux vagues de chaleur aujourd'hui, elle est surtout comportementale, c'est-à-dire que depuis 2003 on nous dit comment se comporter pendant qu'il fait chaud. Il faut boire plus, il faut fermer les volets et puis ouvrir le matin. Enfin, on a énormément d'informations pour qu'on s'adapte, enfin qu'on adapte notre comportement. En revanche, si vous regardez tout ce qui est institutionnel, donc les lois, alors il y a eu un décret fin mai pour expliquer que les salariés devaient être protégés, qu'il fallait leur mettre de l'eau à disposition, qu'il fallait leur fournir des tenues adaptées. Bon, pour moi, c'est du bon sens. On n'a pas forcément besoin d'un décret pour ça, et donc ça avance, mais vraiment très lentement et pas forcément à la hauteur des enjeux.
Et la nature, comment elle s'adapte justement ? Une forêt, parce qu'on voit déjà ces forêts qui ressemblent à des forêts d'automne en plein mois d'août. Est-ce que les arbres, eux, vont supporter 50 degrés, par exemple ?
Alors non, on sait que les écosystèmes forestiers, ils subissent en fait les stress thermiques et hydriques. C'est à la fois la chaleur et la sécheresse. On sait que nos forêts sont en mauvaise santé, donc à cause du stress thermique l'été, mais aussi à cause du fait que nos hivers sont plus doux. Et donc, tous les parasites, les insectes, les champignons vont résister et vont, en quelque sorte vont grignoter notre forêt. On sait qu'elles sont en mauvaise santé à tel point que vous n'êtes pas sans savoir que nos forêts sont un puits de carbone. Et sur les 10 dernières années, leur efficacité a été divisée par 2. Et ça, c'est un vrai problème parce que dans notre politique d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre, on ne tient pas compte du dépérissement des forêts.
Est-ce que les grandes villes ont pris le problème à bras-le-corps? On va en discuter dans un instant, Françoise Vimeux. On va prendre l'exemple de Lyon, la célèbre place Bellecour, avec des ombrières géantes qui ont été installées, 1500 m² de voiles qui parcourent la grande place de la ville. On écoute un reportage de BFM Lyon le 21 juin dernier.
Avec un thermomètre qui frôle les 35 degrés, c'est un véritable crash test pour l'œuvre tissage urbain Place Bellecour.
C'est pas toujours facile de trouver des coins d'ombre, surtout à Bellecour, mais je trouve ça très bien qu'ils aient mis cette espèce d'invention qui n'est pas forcément à mon goût, mais je trouve ça vraiment hyper efficace.
Ouais, je vois une différence, et heureusement qu'il y a ça qui existe. Après, c'est à améliorer, et chaque année, j'espère que ça sera amélioré.
Le mercure devrait continuer à grimper ce week-end. Un pic à 38 degrés est attendu à Lyon.
Voilà, c'était le 21 juin dernier. Françoise Vimeux, est-ce qu'on va s'adapter à la canicule dans une grande ville comme Lyon en mettant des ombrières géantes ?
Alors, je dirais que l'idée, c'est probablement de souffrir un peu moins. Mais on va quand même souffrir. Hein. C'est-à-dire que mettre des ombrières, c'est bien, mais quand il va faire 50 degrés, encore une fois, c'est une des limites de l'adaptation. Mmh. Après, moi, je trouve quand même que des villes comme Lyon prennent à bras-le-corps ce problème. Et si on regarde depuis 2003, c'est quand même des villes comme la ville de Paris ou d'autres villes. Hein, je ne suis pas au courant de tout ce qui est fait, mais j'ai quand même l'impression qu'au niveau local, au niveau des municipalités, on essaye de faire un maximum, même par exemple en mettant à disposition des endroits qui sont plus frais, qui sont climatisés pour que les personnes viennent. Donc il y a vraiment, je trouve, quand même des efforts au niveau local.
Alors pareil, il y a un plan Paris à 50 degrés, hein, puisqu'on parle justement de l'anticipation, dans un contexte où un quart des immeubles sont diagnostiqués comme des passoires thermiques dans la capitale. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là aussi pour arriver à respirer dans des conditions...
Ah oui, alors en fait, l'isolation thermique des bâtiments, c'est un chantier absolument énorme. Donc ça a débuté, mais encore une fois, ça a débuté doucement. Donc oui, il y a un plan à Paris à 50 degrés avec, voilà, on va se rebaigner dans la Seine, ça va apporter de la fraîcheur. Et effectivement, c'est vrai. Mais aller à 15h de l'après-midi, s'il fait 50 degrés, se baigner dans la Seine, encore une fois, c'est compliqué. Et donc, encore une fois, je le redis, peut-être différemment. C'est-à-dire que le succès de notre adaptation, il est inhérent à la réussite à notre réussite pour limiter le réchauffement. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à limiter, à stabiliser le réchauffement, on n'arrivera pas à s'adapter.
Eh bien, on va en parler dans un instant. S'adapter, certes, mais sans oublier de passer par la case atténuation, comme on va le voir avec vous, Françoise Vimeux, et puis vous répondrez aux questions et aux notes vocales pour vous qui arrivent sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Le monde a connu en juillet le troisième mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon l'agence de l'Union européenne chargée de surveiller le réchauffement de la planète. Après un printemps particulièrement chaud et sec, le mois de juillet a été marqué par des vagues de chaleur et des sécheresses importantes alimentant les incendies dans le sud de l'Europe. Les pays d'Europe du Nord ont également subi la chaleur, la Finlande et la Norvège ayant connu des températures records. Selon Copernicus, il faut s'attendre à davantage d'événements climatiques extrêmes si les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne sont pas réduites.
Euronews, le 7 août dernier, Françoise Vimeux, vous qui êtes climatologue, pour nous parler en cette rentrée de Terre au carré de cet été caniculaire, qui s'achève, en tout cas on l'espère. Est-ce qu'une troisième vague de chaleur en plein mois de septembre serait possible?
Oui, bien sûr. Hein. On sait qu'avec le réchauffement climatique, on a une sorte d'allongement de la saison estivale avec des vagues de chaleur donc, qui peuvent arriver au mois de juin et qui peuvent aussi arriver au mois de septembre.
La France qui vient donc de vivre un nouvel été éprouvant, aggravé par le réchauffement climatique d'origine humaine. C'est peut-être bon de le rappeler quand même.
Hein. Ah oui, alors moi j'ai l'impression de le répéter toujours. Non, mais allez-y, aujourd'hui,
on peut rabâcher.
D'accord,
les...
alors aujourd'hui, il faut le dire, hein, c'est un fait scientifique. Hein. Le fait scientifique, c'est de dire que 100% du réchauffement que l'on observe est dû aux activités humaines.
100% ?
100%, et il n'y a pas de barre d'erreur. Et c'est très rare qu'un scientifique ne donne pas de barre d'erreur, ça n'arrive jamais. Donc là, notre certitude, elle est à 100%. On ne peut pas faire mieux, c'est un fait scientifique. Hein. C'est comme dire que la Terre est ronde, c'est un fait scientifique.
Mmh. Et sauf que vous trouverez toujours des gens pour le remettre en cause. Hein,
bien sûr, parce que tout le monde peut penser ce qu'il veut, et puis on est dans une démocratie, on peut croire et penser ce que l'on veut, mais la science nous dit que le réchauffement que l'on observe depuis l'ère pré-industrielle est dû à 100% aux activités humaines, et donc en grande majorité à l'utilisation des énergies fossiles que sont le charbon, le gaz, le pétrole et dans une moindre mesure la déforestation. Mmh.
Atténuer donc notre impact sur le climat, ça fait figure de priorité. Et là encore, ben on est sur une mauvaise trajectoire ou pas ?
Alors en fait, on vient d'avoir les derniers chiffres pour le premier semestre 2025. Les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, elles continuent à augmenter. Et donc je rappelle que pour stabiliser le réchauffement, je ne parle pas de le réduire, hein, je ne parle pas de baisser la température, je parle juste de le stabiliser. Mmh. Il faut atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce que les puits de carbone que sont l'océan, la végétation et les sols
sont capables d'absorber,
exactement,
en fait.
Peuvent, ouais, absorber.
Donc il ne s'agit pas de ne plus du tout émettre du carbone, parce que malheureusement...
Alors il y aura toujours des émissions résiduelles, bien sûr, donc ces émissions résiduelles, elles doivent être absorbées par ces puits naturels.
La fenêtre d'opportunité des 1,5°C, elle se referme complètement, la Françoise Humeux, ou pas ?
Oui, il y a encore quelques années, on disait qu'elle était ouverte, mais qu'elle se refermait. Là, il y a des études récentes qui nous disent que maintenant, elle est quasiment fermée. Hein. J'ai toujours du mal à dire qu'elle est fermée. Donc, elle est quasiment fermée. En fait, il faudrait réduire de manière tellement drastique nos émissions à partir d'aujourd'hui que dans le contexte géopolitique que l'on connaît, ça semble impossible.
Mais à quel horizon on va considérer vraiment que les 1,5 ne sont plus atteignables ?
Alors en fait, déjà, on considère qu'on a atteint 1,5 degrés quand on a une température moyenne sur 10 ou 20 ans qui est supérieure de 1,5 degré à la température pendant la période pré-industrielle. Mmh. Par exemple, en 2024, qui a été l'année la plus chaude jusqu'à présent, la température mondiale a été estimée à 1,52 degré, mais ça ne veut pas dire pour autant, au sens climatique du terme, qu'on a dépassé ce seuil de 1,5. Mmh. Le 1,5 s'entend au sens climatique, c'est-à-dire des moyennes sur à minima 10 ans. Et donc, étant donné la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre sur laquelle on est, on pense qu'on va atteindre dans la décennie 2030-2040, mais plutôt au début de la décennie, ce fameux seuil des 1,5 degrés.
Donc maintenant, le cap, c'est quoi ? Raisonnablement, les 2 degrés ?
Eh bien, rester en dessous des 2 degrés, mais en fait, hein, je le redis, la trajectoire sur laquelle on est, alors ça nous emmène à 2 degrés à horizon 2050, et s'il n'y a pas d'effort supplémentaire, s'il n'y a pas d'engagement supplémentaire des pays pendant les conférences des parties, on va tout droit vers un réchauffement mondial de 3 degrés en 2100, qui se décline par 4 degrés en France.
Alors, il faut quand même parler d'un pays qui sort un peu la tête de l'eau, c'est la Chine.
Oui.
Contre toute attente, peut-être, non ?
Alors, je ne dirais pas contre toute attente.
En tout cas, un pays qu'on pointe beaucoup du doigt pour ses diverses pollutions, et à juste titre, d'ailleurs.
Alors, bon, la Chine, c'est le premier émetteur mondial, hein, c'est un tiers des émissions globales. Après, je rappelle que la Chine, c'est un grand pays avec beaucoup d'habitants, et si vous ramenez les émissions au nombre d'habitants, finalement, l'empreinte carbone d'un Chinois, elle est égale à celle d'un Français. Donc ça, je pense que c'est important à dire. Après, effectivement, la Chine, depuis 12 mois maintenant, a stabilisé ses émissions de dioxyde de carbone, et donc si ça se poursuit, si ça se confirme, la Chine sera en avance par rapport à ce qu'elle avait dit relativement à son pic d'émissions.
Ouais.
Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis, ça prouve que c'est possible.
Ouais. Donc, on devrait s'inspirer de la Chine ?
Moi, je trouve que là, de ce point de vue-là, oui.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le réchauffement s'accélère, Françoise Humeux, ou pas ?
Alors, quand on regarde les mesures, les observations de température sur les 40 dernières années, on ne voit pas d'accélération du réchauffement. Mmh. En revanche, comme le réchauffement se poursuit, bien la température augmente. C'est un peu comme quand vous êtes sur la route, vous roulez à 110 km/h, vous avancez. Heure après heure, vous avancez et vous n'accélérez que si vous passez à 120 km/h. Mmh. Donc non, on ne voit pas jusqu'à aujourd'hui d'accélération du réchauffement, mais on atteint des niveaux de température tels que les impacts sont de plus en plus visibles, sont de plus en plus intenses et ça nous donne une impression de réchauffement. En revanche, ce qui s'accélère et ce qu'on n'avait pas forcément vu, je dirais, dans les années 70-80, c'est la montée du niveau des mers. Ouais.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Et tiens, on va commencer par une note vocale sur l'application Radio France avec la question de Martine, ou le témoignage d'ailleurs de Martine.
Bonjour, j'habite en Corrèze et cet été tout particulièrement, on constate que des arbres sont littéralement passés au chalumeau et je suppose que c'est une conséquence directe des très fortes chaleurs de ces dernières semaines. Voilà.
Françoise Vimeux, une réponse à Martine.
Oui, c'est à la fois les fortes chaleurs et puis ce qu'on disait tout à l'heure, la sécheresse. Hein. Donc c'est le manque d'eau pour toute la végétation, hein, les arbres, mais pas que. Mm-hmm. Et puis encore une fois, les fortes chaleurs, eh bien, elles viennent favoriser le départ de l'eau, hein, des sols et de la végétation. Donc vraiment le couple sécheresse et forte chaleur, c'est vraiment très délétère pour nos massifs forestiers.
Benjamin se demande, est-ce une impression où le pic de chaleur, Françoise Vimeux, dans la journée se situe désormais vers 17h, alors que l'on considérait généralement les heures les plus chaudes entre midi et 16h auparavant?
Alors, il ne faut pas confondre les heures où on a un impact des UV, hein, c'est-à-dire on dit souvent ne sortez pas entre 11h et 16h pour ne pas attraper de coups de soleil. Il ne faut pas confondre ça avec le pic de chaleur dans la journée qui a toujours été à nos latitudes plutôt en fin d'après-midi. Et ça, c'est renforcé dans les villes, hein, par le fait que nos villes absorbent beaucoup la chaleur. Hein, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur.
Ouais.
Vous avez tout ce béton, tout ce bitume qui absorbe la chaleur et qui va commencer à le relarguer en fin de journée.
Françoise se demande, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire la climatisation dans la plupart des cas et réglementer la construction? À Montpellier où j'habite, on voit des immeubles entiers avec des façades plein sud en verre, exemple la nouvelle fac de lettres. Alors, la polémique sur la clim, qui a fait les grands titres cet été.
Oui, il y a tout un tas de questions.
Ça vous inspire quoi?
Alors, bon, il y a deux choses. On sait que la climatisation, c'est physique, hein, pour vous donner du froid, il faut que ça rende de la chaleur à l'extérieur. Donc, si tout le monde a une climatisation, on a ce phénomène d'augmentation de la température qui est très locale, qui peut être de quelques dixièmes de degrés jusqu'à plusieurs de degrés à l'intérieur des villes. Donc, évidemment, la clim, c'est pas la meilleure adaptation qu'on peut trouver, c'est plutôt une maladaptation. Mais bien sûr, on aura toujours de la climatisation dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les crèches. Et ça, c'est inévitable. Mais il faut essayer de réduire au maximum le recours à la climatisation.
Mais quand on en est à polémiquer sur la clim en plein milieu de l'été, finalement, ça vous inspire quoi, vous, en tant que climatologue?
Je me dis que c'est dommage, on pourrait parler quand même de choses de fond. Et que la polémique sur la climatisation, ça me semble pas très intéressant.
On écoute la voix de Julia dans une autre note vocale.
Est-ce que les prévisions actuelles donc pour 2100 sont toujours fiables et valables? Parce qu'on a vraiment l'impression que les choses avancent à une vitesse exponentielle. Donc est-ce que c'est vraiment fiable les prévisions à 2100?
Il y avait une suite à cette question? Non, ça se termine là-dessus. Alors, je vais compléter avec la question d'ailleurs de François qui demande si on est vraiment sur une trajectoire de plus 4 degrés aujourd'hui.
Alors, ce que je peux répondre déjà, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, ça correspond exactement aux projections qui ont été faites il y a plusieurs décennies. Mm-hmm. Hein, les premiers rapports du GIEC disaient déjà qu'en 2025, on aurait une température mondiale qui serait supérieure de 1,3 à 1,6 par rapport à l'ère pré-industrielle. Mm-hmm. Et je rappelle que sur la dernière décennie, on frôle le 1,3 degré. Pour ce qui est de l'avenir, en fait, on travaille avec des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un scénario un peu favori qui correspond aux engagements des différents pays pendant les COP. Mmh. Et donc si on reste sur ce scénario, oui, parce que les projections sont toujours fiables. En revanche, si jamais on a par exemple les États-Unis qui relâchent tous leurs efforts en termes d'atténuation, bien finalement on va quitter ce scénario médian pour aller sur des scénarios d'émissions beaucoup plus forts. Et donc il faudra revoir les projections à la hausse, puisque encore une fois, les projections sont déduites de scénarios que l'on fait d'émissions de gaz à effet de serre.
Puisque vous évoquez les COP, la COP 30, ce sera en novembre prochain à Belém, au Brésil. Elle arrive, personne n'en parle. Le climat, on s'en fout complètement.
Oui, alors on n'en parle pas beaucoup parce que c'est au mois de novembre. D'ailleurs, les États eux-mêmes qui doivent rendre leurs copies, hein, vous savez que tous les 5 ans, ils doivent revoir leurs engagements à la hausse. Ils doivent aussi faire un point sur est-ce qu'ils ont respecté les engagements qu'ils avaient eus 5 ans auparavant. Je crois, sans dire de bêtises, qu'on attend encore la feuille de route de plus de 80% des pays. Donc là, il y a vraiment une grosse question.
Dernière question, celle d'Yvaine. Est-ce qu'à 4 degrés, notre agriculture, perpétuellement en crise depuis 30 ans, a une chance de survivre?
Alors l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui, sûrement pas. Encore une fois, il y a un panel d'alternatives pour s'adapter. Mais par contre, plus 4 degrés, c'est quand même énorme. Hein.
Merci beaucoup, Françoise Vimeux. Vous étiez notre première invitée de rentrée de la Terre au Carré. Merci également à Tilaï Ravu, qui était à la technique, Jérôme Boulet, qui réalisait cette émission, Lucie Sarfati, pour la programmation et la coordination. Demain, dans l'émission, Les enfants et la nature.